Radio Capi, grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Monique Julienne Ngolé-Lokonga. C'est ça que j'ai bien prononcé le nom, hein?
Oui, très bien prononcé. Ngolé-Lokonga Monique.
Merci. Elle est ancienne ministre provinciale de l'Intérieur, Ordre public, Justice et Droits humains de la province de l'Équateur. Elle a assumé aussi les fonctions d'administrateur de territoire de Béfalé, toujours dans la province de l'Équateur. Madame Monique, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Avec vous, dans notre émission, nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs des radios Capi qui nous suivent en ce moment. On va parler de votre personne, de votre parcours, votre expérience professionnelle, votre parcours politique aussi. Mmh. Mais avant cela, on va commencer par une petite biographie de votre personne. Vous êtes né à Lingomo,
dans le territoire de Djolo, dans le district de l'Équateur, dans la province de l'Équateur.
Un certain 13 octobre 1956.
Évidemment.
Vous êtes veuve et mère de 4 enfants.
C'est bien sûr ça.
Alors, où est-ce que vous avez passé votre enfance?
J'ai passé mon enfance à l'internat au lycée Lontinga Senghor à Bassankoussou. C'est là où j'ai fait mes études secondaires, une partie des études secondaires, et je suis allée jusqu'au niveau du territoire de Bikoro, toujours dans la province de l'Équateur, pour étudier au lycée Mwinda de Bikoro, et ça après la formation religieuse d'une année dans la mission catholique Ewaka.
Et donc, vous n'êtes pas trop resté avec vos parents?
Je suis resté avec mes parents juste une dizaine d'années. Une dizaine d'années.
Et après, ils vous ont envoyé à l'internat.
Je suis allée à l'internat à une distance de 600 km. Il fallait parcourir 1200 km chaque année pour rien que faire l'étude secondaire, les études secondaires.
Et c'est vous-même qui avez souhaité aller à l'internat ou bien ce sont les parents?
Ce sont mes parents qui
vous ont envoyé là-bas.
Mon parent, surtout mon père qui était enseignant et il supportait les frais scolaires, les frais de l'internat.
C'est parce qu'il y avait une bonne formation dans cet internat que
bien
vous envoyez là-bas.
C'est un internat encadré par des sœurs religieuses. Et par la suite, je deviendrai religieuse suite à cet encadrement-là.
Vous avez un diplôme d'état en pédagogie générale au lycée Mwinda de Bikoro, toujours
oui.
à l'Équateur.
Oui.
Vous êtes gradué en histoire et sciences sociales. De quelle université?
ISP Mbandaka.
En plus de votre diplôme de graduat, vous avez une licence en pédagogie appliquée, option histoire à l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka.
Oui, actuellement, j'ai fait l'IPEN. Je suis en deuxième année dans l'école doctorat parce que j'ai fait les sciences historiques.
Vous êtes historienne donc?
Oui, de formation.
Vous maîtrisez donc l'histoire du pays, du
maîtriser,
Congo?
Maîtriser, ça c'est trop dur, c'est trop dur, mais j'ai fait l'histoire.
Avant de parler de votre expérience professionnelle, vous dites que vous avez été religieuse.
J'ai fait 10 ans dans la congrégation. J'ai commencé comme religieuse et deux ans après, je suis devenue supérieure générale de la congrégation, économe générale de la congrégation.
Quelle congrégation?
Des Thérésiennes de Bassankoussou. Et en même temps, j'ai donné cours au lycée Lontinga Senghor à Bassankoussou sur place.
Pourquoi vous avez choisi d'aller au couvent?
Parce que en moi, j'ai senti toujours cette vocation-là de servir, de rendre service aux autres, extérioriser mon amour, l'amour du Christ, l'amour du prochain à travers la vie religieuse.
Et c'est ça qui vous a poussé à aller au couvent.
Oui.
Vous y êtes
aller
vous
au service des autres.
Vous y êtes resté pendant 10 ans.
Pendant 10 ans.
Puis après, vous avez quitté parce que vous avez
des raisons de convenance personnelle.
Que c'était pas votre vocation ou quoi?
C'était ma vocation, mais je dis bien, je voudrais pas entrer dans des détails. J'ai quitté pour des raisons de convenance personnelle.
Alors, lorsque vous avez quitté le couvent, vous avez fait quoi?
J'ai travaillé. J'ai été engagée dans la société ABC Construct comme phoniste et aide à la comptabilité. En 1985-87. Ouais. Et après, je suis allée travailler une année à l'école belge comme enseignante et j'ai donné cours simultanément dans la classe de 5e et 6e. Après, vers les années...
En Mbandaka.
Vers les années de 1988, j'ai fait mon entrée dans la division
de l'EPSP. Et vous occupiez quelle fonction? Au niveau de la division de l'EPSP?
J'ai travaillé au service du personnel. Et c'est à partir de cette EPSP que j'ai dû pas faire ma licence. j'ai fait la licence, c'est parce que mon mari était là. Il est devenu provède. Mais pour qu'il me nomme chef de bureau, il dit, en tout cas, madame, moi, je suis vraiment au regret parce que vous ne le méritez pas. Vous n'avez pas la qualité, vous n'avez pas le diplôme de licencié pour que je puisse vous engager comme un chef de bureau. Alors, ça m'a tiqué, ça m'a poussé maintenant à aller reprendre. Oui, si j'allais reprendre la licence, les études, et je suis sortie licenciée avec mention distinction.
Et c'est votre mari qui vous a dit ça?
Oui.
Il a refusé de vous faciliter.
Il a refusé la dit, tâche. Moi, je suis. Parce que j'ai dit, les autres, vos prédécesseurs ont engagé leurs épouses comme chef de bureau, comme ça, ça, ça. Mais vous, il fallait quand même faire quelque chose pour moi. Il dit, non, madame, moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. Vous devez reprendre les études, devenir licencié, comme ça vous allez être affecté comme un chef de bureau. Et il m'a encouragé, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien qu'il est décédé, mais il m'a laissé un héritage. Je ne le regrette pas. Il était un héros dans l'ombre, je ne le regrette pas, mais vraiment ça m'a aidé à renforcer mes capacités intellectuelles.
Vous êtes fondatrice de l'ONG Éducation aux droits de la femme à l'Équateur.
Oh oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette ONG?
Ce qui m'a motivé, c'est que pendant cette période-là, il n'y avait pas de structure qui encadrait les femmes dans la connaissance et la défense de leurs droits.
Donc c'était vers les années 2000.
Vers les années 2000. On avait une structure qui était opérationnelle à cette période-là, c'est AFI, Association des femmes intellectuelles de l'Équateur. Et quand on est arrivé à travailler avec la section des droits de l'homme de la MONUSCO Équateur, en 2002, on nous avait demandé d'échanger ça parce que c'était discriminatoire. Si c'est une association uniquement pour les femmes intellectuelles, que feront alors les autres dames qui n'ont pas étudié? C'est ainsi que nous avions jugé bon de fonder une structure qui s'occuperait maintenant des droits, de la connaissance des droits et de la défense des droits de la femme.
Avant de fonder cette ONG, vous avez eu le temps de sillonner l'arrière-province, les coins reculés, pour voir à quels problèmes sont butées les femmes.
Oui, j'ai eu le temps parce que en 2002, j'étais membre du comité provincial des journées nationales de vaccination, JNV. Ça m'a donné aussi l'opportunité de sillonner un peu quelques territoires de la province. Alors, avec les différentes formations au niveau de la section des droits de l'homme, et chaque fois qu'il y avait des interventions au niveau national, on nous appelait pour y assister. Ça nous a permis maintenant de connaître, parce qu'on est descendu sur le terrain, de connaître à fond les problèmes qui embêtent la femme de l'Équateur.
La femme de l'Équateur est butée à quel genre de problèmes?
Beaucoup de problèmes,
entre autres
l'analphabétisme, l'ignorance, la méconnaissance de ses droits, de ses obligations, les violences sexuelles, n'en parlons même pas, les violences conjugales, les violences psychologiques, autant de problèmes.
Et lorsque vous organisez des conférences, vous parlez aux femmes de leurs droits?
Bien sûr que oui, nous leur parlons et nous les conscientisons pour que les femmes puissent s'auto-prendre en charge, qu'elles ne continuent pas à se plaindre, à vivre dans l'oisiveté, dans l'attentisme, mais plutôt nous poussons les femmes à s'auto-prendre en charge, à se battre comme leurs partenaires, comme leurs collègues hommes.
Est-ce que certains hommes ne prennent pas ça d'un mauvais œil, se disent, bien, mais cette dame-là, elle cherche à intoxiquer nos femmes,
oui,
pour
faire, c'est ça? Ils n'ont cessé de nous le répéter, vous serez à la base des dislocations de plusieurs foyers. Mais nous leur disons que c'est un processus. Et eux doivent aussi se préparer en conséquence pour qu'un jour ils ne puissent pas le regretter. Parce que le monde évolue, nous vivons la mondialisation. Quand ces femmes suivent la radio Capi, les autres radios, elles ont l'information. Et un jour, elles finiront toujours par choisir là où elles peuvent orienter leur vie.
De 2007 à 2008, vous avez été vice-présidente de la synergie provinciale des luttes contre les violences sexuelles.
Oui, tout en étant à la mairie, j'ai été aussi vice-présidente. Nous avons sillonné la province pour conscientiser, pousser les femmes à dénoncer, à décrier.
C'est parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de violences sexuelles au niveau de la province.
Oui, c'était juste après la guerre. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont été... Vous vous rappelez l'histoire des femmes de Songomboyo à Bongandanga. J'ai été jusque-là. À Guado, j'y étais. À Ikela, on a sensibilisé, conscientisé les femmes. J'ai sillonné un peu quelques territoires pour vivre, palper du doigt les tristes réalités de nos mamans dans la province.
Ces femmes-là, elles étaient prêtes à raconter leurs histoires?
Oui,
elles
étaient ouvertes parce qu'on respectait aussi la procédure. On ne pouvait pas les exposer comme ça. Il fallait créer un climat de confiance pour qu'elles soient à l'aise et puis par conséquent vous raconter comment on l'a violée.
Et comment elles étaient considérées au sein de leur famille après être violées?
Vraiment, vous-même vous connaissez en tant qu'Africaine, en tant que Congolaise. Ce sont des sujets tabous et surtout des sujets humiliants. Et les femmes et la communauté pointent du doigt et nous, à notre tour, nous conscientisons, nous sensibilisons et la communauté et les femmes elles-mêmes et les maris, donc et la famille, pour qu'elles mettent quand même ces femmes un peu à l'aise. Ce qui leur est arrivé peut aussi nous arriver à nous un jour. Ça peut arriver à son mari, ça peut m'arriver, ça peut arriver. Donc ça arrive, ce sont des histoires qui arrivent à tout le monde et je crois qu'on doit apprendre à se supporter, à s'aimer mutuellement.
Radio Capi, grand témoin.
Je rappelle à tous les auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment que Grand Témoin reçoit Madame Monique Julienne Ngolelo-Konga. Elle est ancienne ministre provinciale de l'Intérieur, Ordre Public, Justice et Droits Humains de la province de l'Équateur. Il faut signaler qu'elle est la première femme en RDC à assumer cette fonction de ministre de l'Intérieur.
Oui.
C'est pas facile quand même.
C'est une fonction délicate.
Très délicate.
À tout moment, vous êtes avec les services de sécurité, les services spécialisés, l'ANR, la DGM, l'armée, la police. Donc, vous êtes condamné à vivre avec ces services chaque jour. Et c'est avec eux que vous allez travailler pour mettre la sécurité. Parce que le ministère s'appelle le ministère de l'Intérieur, Ordre Public, Justice et Droits Humains.
On va y revenir, oui. Madame Monique, mais... On va reparler de votre enfance, de votre passé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quels souvenirs vous gardez de votre enfance?
Les bons souvenirs, surtout la vie familiale. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Mon papa, ma maman, paix à son âme. Mon papa m'a beaucoup encouragé à aller à l'église, à aller étudier. Vraiment, on avait une vie familiale à telle enseigne que mon mari m'appelait Mère Poule. Mais pour du fait que j'ai été éduquée comme ça, je ne pouvais pas manger sans penser à mes frères et sœurs. Donc, je garde de très bons souvenirs de la vie familiale. Et il en a été de même pour mon directeur spirituel, le feu, Monseigneur Matondo Kwanzam. C'est grâce à lui que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Il m'a encadré spirituellement et c'est lui qui m'a poussé à aller étudier au niveau de l'université.
C'était quoi sa réaction lorsque vous avez décidé de quitter le couvent?
Oh, il était très très découragé, très très découragé. Et quand j'ai quitté, il y a eu vraiment des sorties en cascade et ça n'a pas vraiment plu pour l'évolution de la congrégation.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Madame Monique?
Ce que je n'aime pas, ce sont les injustices. Je n'aime pas les injustices. Et ce que j'aime de plus, c'est partager avec les autres le peu que j'ai. Et mon nom, c'est Ngolé. En notre langue, on dit Bongolé Ngolé. C'est une personne généreuse. et qui est au service de tout le monde.
Uh-huh. Oui. Et donc vous ressemblez vraiment à votre nom.
Oui, sauf que l'étiquette là, le Konga, c'est le nom de mon père, c'est ça.
Et ça, ça signifie quoi?
Ça signifie serpent.
Donc un serpent au milieu des autres.
Ouais.
Le serpent, il est dangereux. Hein?
Très dangereux. C'est le nom de mon père. Mais moi, je ne suis pas serpent. Mon nom, c'est Ngolais, le nom de sa maman.
Vous portez ce nom?
Bon, je le porte, bon, pas par volonté, mais c'est, on m'a donné.
Alors, on va parler maintenant de votre nomination à la tête du ministère provincial de l'Intérieur, République, Justice et Droits Humains.
Mm-hmm.
Comment vous êtes arrivé à ce ministère-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour être nommé ministre provincial de l'Intérieur?
C'est-à-dire, en 2002, j'ai été nommée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, comme maire adjointe de la ville de Mbandaka. Et j'ai travaillé, j'ai exercé ces fonctions pendant 6 ans, de 2002 à 2008. Comme maire adjointe de la ville de Mbandaka. Cette expérience, non seulement l'expérience, ma façon de vivre avec les gens, c'est ça qui a fait que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jean-Claude, puisse me nommer ministre provincial de l'Intérieur, Ordre public et Justice et Droits humains. Parce que le ministère, c'est petit, mais la mairie, c'est comme une mini-république. Quelqu'un qui a été capable de diriger une mairie est aussi capable de diriger le ministère de l'Intérieur.
Pas nécessairement, hein?
Bon. Par expérience, il faut avoir d'abord les compétences, les capacités intellectuelles. C'est pourquoi j'invite aussi les mamans à ne pas minimiser les formations. Les formations, quand il y a une formation, on néglige. Non, c'est grâce. Je suis un auto-formé. Je me suis impliquée moi-même pour réussir ma formation.
Alors, est-ce que c'était facile pour vous de travailler avec les militaires, une femme, est-ce que vous étiez comprise, est-ce que vous étiez entendue par tous ces généraux avec qui vous travaillez?
Oui, on travaillait vraiment en synergie. Oui, parce qu'il fallait avoir des stratégies, connaître comment diriger, pas en dictatrice, mais chaque fois, c'est référé. Il y a des moments où, par exemple, ils refusent de venir, vous y allez, vous allez le voir. Mon général, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse ça, par rapport à ça? On doit aller vers les autres, pas seulement parce qu'on est chef qu'on est là. Non, il faut aller vers, savoir dialoguer. Ce n'était pas facile, mais
j'imagine que c'était pas facile pour vous.
Utiliser m'a facilité la tâche.
Mais est-ce qu'à un certain moment, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, mais ces hommes-là, pour qu'ils se prennent, est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'ils ne veulent pas m'obéir ou quoi que ce soit?
Non. Il ne m'est jamais arrivé cette idée en tête parce que moi, je vois tout le monde sur le même pied d'égalité. Hommes, femmes, ce sont des êtres humains.
Mais est-ce qu'eux aussi, ils vous voyaient comme ça?
Oui, ils me respectaient. En tout cas, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ils m'ont vraiment respecté. Et parce que moi, je me faisais aussi respecter.
Pourquoi vous avez quitté ce ministère-là en 2010?
Bon, j'ai quitté le ministère, c'est peut-être le parti qui a jugé bon que je sois remplacée par un autre cadre du parti.
Quel parti? Vous êtes militante de quel parti?
PPRD.
Vous êtes militante du PPRD.
Oui.
Mais puisque vous étiez compétente, pourquoi le parti a décidé que vous puissiez être remplacée par quelqu'un d'autre?
Ça, c'est un monde politique et je ne voudrais pas entrer là-dedans. Nous fermons un peu cette parenthèse.
Vous êtes toujours militante du PPRD?
Bien sûr que oui.
Mais après le ministère, vous avez travaillé comme administrateur du territoire de Befale, toujours à l'Équateur.
Oui, ça, c'est une expérience d'humilité. J'ai fait cette expérience pendant 10 ans. Quelqu'un qui a dirigé comme ministre de l'Intérieur, qui a assumé l'intérim de gouverneur pendant trois reprises, et qui est affecté comme administrateur du territoire. Humainement parlant, je crois que ça ne peut pas vraiment plaire, mais du fait que j'ai été religieuse, j'ai dû supporter ça avec amour. Je suis partie répondre à cette affectation.
C'était toujours dans les cadres du parti, toujours?
Oui.
Je comprends que le parti vous oblige parfois à faire des choses dont vous ne...
Même dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il faut tout supporter.
Parce qu'on est membre d'un parti politique.
Pas seulement parce qu'on est membre d'un parti politique.
Là, on devient un peu esclave du parti. Lorsque le parti vous dit, faites ça, vous faites. Même si ce n'est pas dans vos convictions.
C'est pas ça. Je dis ceci, c'est une expérience spirituelle, une expérience d'humilité. Et c'est
vous,
pas donné.
Mais personnellement, vous n'étiez pas, prête à aller travailler
non,
là-bas.
Non.
Comme administrateur du territoire des Bifalé, votre travail consistait en quoi?
Là, vous encadrez les. Vous avez un comité de sécurité du territoire, vous travaillez avec les chefs de secteur, les chefs de groupement. C'est vraiment l'administration à la base.
Et Bifalé, c'est à combien de kilomètres de Mandaka?
Bifalé, c'est à presque 400. Presque 400 kilomètres.
Ça ressemble à une punition, hein, le fait quand vous êtes envoyé travailler là-bas.
C'est ça la territoriale. On doit s'attendre à toute éventualité.
On commence, on gravit les échelons petit à petit, de la base jusqu'au sommet. Mais vous commencez par, vous assumez d'abord l'intérim du gouverneur à trois reprises, ministre provincial, et puis vous retournez encore administrateur.
Mais ce sont des histoires qui peuvent arriver. Nous avons vu ici, chez nous, un chef de bureau qui est venu comme responsable des services du protocole. Et quelques temps après, chef de bureau.
Vous êtes resté là pendant presque
10 mois
seulement. Pourquoi? Parce que vous avez été remplacé ou bien vous avez décidé carrément de partir parce que ça ne vous plaisait plus?
Il y a eu une autre mise en place qui est sortie et moi, nous, n'étais pas sortis. J'ai pris mes bagages, je suis rentré à Kinshasa.
Vous êtes rentré à Kinshasa. Et là, le parti ne vous a pas proposé autre chose à la place?
Non, pour l'instant, je me suis dit autant aller peut-être aux élections au niveau de la députation provinciale.
Et donc, vous attendez les élections provinciales qui vont bientôt arriver. Et vous pensez que ça pourrait marcher pour vous?
Oui, ça doit marcher. Ça doit marcher.
Vous êtes trop sûr de vous-même.
Hein? Mais c'est ça, la vie, c'est un combat. Il faut se battre. Je dis bien, je dis aux mamans de se battre. Alors moi-même, je ne peux pas dire le contraire de ce que... Non, je dois me battre. Et puis, comme les hommes. Les hommes se battent aussi. Ils échouent. Ils ne baissent pas les bras. Ils continuent. Et nous aussi, nous devons encourager les autres. Pas seulement encourager les autres. Et nous-mêmes, nous devons... Allez, de l'avant.
C'est vrai que vous parlez d'encadrer les femmes, vous poussez les femmes à ne pas baisser les bras, à aller de l'avant. Mmh. Mais on a l'impression que c'est juste une catégorie de femmes qui essaient de se distinguer ou un peu...
Pas seulement une catégorie. Vous voyez, par exemple, pour la journée internationale de la femme, le 8 mars de cette année, nous avons focalisé l'attention sur la femme rurale. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de programme précis, de programme concret pour faire... en sorte que cette femme soit relevée de ce niveau-là pour qu'il puisse arriver aux instances décisionnelles. Donc, c'est un grand travail que nous avons dans la province pour décharger la femme rurale, faire en sorte qu'elle soit aussi élevée. Nous avons un grand travail d'aller vers ces mamans-là.
Mais est-ce que vous allez vraiment, réellement vers ces mamans-là? Parce qu'on a l'impression que ces mamans-là sont... elles sont abandonnées à elles-mêmes. Quand on parle, je prends la journée, le thème du 8 mars de l'année de cette année, c'était l'autonomisation de la femme. Ouais. Si vous posez une femme rurale la question de savoir, est-ce que tu sais ce que ça signifie, autonomisation de la femme?
C'est ce que je suis en train de crier ici. Il y a eu des beaux discours, mais il faut maintenant descendre sur le terrain, aller vers ces mamans-là, vivre leur triste réalité et essayer de faire quelque chose pour qu'elles puissent se retrouver au même diapason que les autres mamans.
Quelle est votre devise, Madame Monique?
Ma devise, c'est Lontinga Sengo. La persévérance apporte le bonheur. On doit persévérer dans la vie.
Alors, Madame Monique Ngolelo Konga, il vous arrive d'écouter de la musique?
J'aime la musique et surtout que je m'appelle Ngolé. La chanson que j'aime, c'est Ngouli.
Le Koffi Olomide.
J'aime aussi l'autre chanson là qu'on appelle Bakulakabe Équateur, Équateur et Kene Olongola. Loyaka et Loyaka, c'est-à-dire une invitation.
Ça, c'est le folklore.
Bon, ce sont des musiciens locaux, mais au niveau national, qui ont chanté pour inviter les différentes autorités de la province de l'Équateur à s'unir, à enterrer la hache de guerre et voir l'intérêt supérieur de nos populations, de notre chère province.
On sent qu'il n'y a pas d'unité au sein de la province.
Non. Vous-même, vous le constatez. Vous êtes de la radio Capi, vous suivez tout ce qui se passe à travers la province. Il y a des sérieux problèmes. J'ai parlé de dysfonctionnement, c'est ça.
On pourrait dire que c'est ça qui est à la base du fait que la province n'arrive pas à se développer.
Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a une crise au niveau des deux institutions. Quand il y a dysfonctionnement au sein des services, quand il y a une persistance de la crise au niveau de la première institution, dites-vous, madame, que c'est difficile que les choses puissent décoller. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont produit que 3 édits. Pendant 5 ans, 3 édits. Ce sont de sérieux problèmes qui empêchent le décollage de la province.
Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Ils doivent s'entendre et viser, accorder la priorité aux préoccupations de nos populations.
L'expression de nos amours associés. Mon père.
propager on a dit.
De grands témoins aujourd'hui, Monique Julienne Golay-Lokunga. Elle est ancienne ministre provinciale de l'Intérieur, Ordre public, Justice et Droits humains dans la province de l'Équateur. Elle est également fondatrice de l'ONG Éducation et Droits de la Femme à l'Équateur. Parlons de votre parcours politique. Oui. Vous êtes militante du PPRD.
Oui.
Et c'est depuis quand que vous avez adhéré à ce parti politique?
C'est depuis 2002-2003.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif dans votre parcours politique?
Comme point fort, les nominations, les décrets présidentiels m'ont élevé, m'ont donné des ouvertures. Et au jour d'aujourd'hui, je suis devenue ambassadrice universelle de la paix pour la province de l'Équateur.
Vous avez eu ce titre en 2012, hein, le 21 oui. septembre dernier,
oui.
comme ambassadrice universelle de la paix.
Oui. Là, nous avons aussi une lourde tâche d'aider les communautés. Donc, nous avons un travail de concilier toutes les communautés en conflit divers à vivre en paix. C'est le rôle de l'ambassadeur universel de la paix.
De la paix. Il y a eu beaucoup de problèmes ici, hein, entre les tribus,
même entre les institutions. Et nous avons vraiment un grand travail à faire dans ce sens-là.
Madame Monique Golay-Lokunga, à ce jour, quels sont les points faibles que vous avez pu constater tout au long de votre parcours politique?
Alors, comme point faible, il y a le problème de la mauvaise gouvernance, le problème de dysfonctionnement des services, le non-paiement des indemnités de sortie des uns et des autres, l'insécurité dans la ville, ainsi que l'inversion des valeurs. Les antivaleurs deviennent au jour d'aujourd'hui des valeurs.
Des valeurs.
Et aux vies aussi de tout le monde. Il y a maintenant la dislocation des familles. La famille comme cellule mère de la nation n'existe que de nous. Nous avons aussi un grand travail à faire là-dessus parce que les jeunes vont manquer de références. Les jeunes vont manquer de modèles. Voyez par exemple la corruption qui est institutionnalisée. Comment faire sortir la province, comment faire sortir les territoires. Et même ça va jusqu'au fin fond parce qu'il y a des mamans qui donnent l'argent aux enseignants pour que son enfant ou bien sa fille passe des classes. C'est ça l'institutionnalisation de la corruption. Comment faire changer cet état des choses? Ce sont des points faibles que moi j'ai pu constater. Il y a aussi la marginalisation de la femme. Il y a absence de programme pour la prise en charge effective de la femme rurale. Comment maintenant la décharger, comme je venais de vous dire là tout à l'heure. Et enfin, la persistance de la crise dans la première institution de notre province, au niveau de l'Assemblée, non même pas ouvert, c'est toujours fermé. Et ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas parce que ça freine le développement de notre province.
Vous avez parlé de la marginalisation de la femme. Vous, personnellement, vous vous êtes senti marginalisée à un certain moment de votre parcours professionnel ou politique?
Non, non. Je parle d'une façon générale, parce que quand je vois les
statistiques... Oui, je sais que vous parlez d'une façon générale, mais personnellement...
Personnellement, bon, non, non, non.
Vous ne voulez pas nous dire la vérité, madame Monique.
Mais ce sont des histoires qui arrivent là où il y a des hommes.
Ben oui.
Et on doit se battre.
Si vous êtes,
on doit
si
se défendre par la qualité.
Vous me dites, oui, une fois, en passant.
Une fois, oui, une fois, oui, mais... Ça ne vaut même pas la peine de le dire parce qu'il y a des hommes aussi qui se sentent marginalisés. Ils ne le disent pas, ils ne le décrivent, ils ne se plaignent pas. Et nous aussi, nous devons apprendre à nous défendre par la qualité de notre travail.
Les souvenirs, on en a tous, vous en avez aussi. Et quel est le souvenir qui a marqué votre vie ou quels sont les souvenirs qui ont marqué votre vie?
Mauvais souvenir, la disparition tragique de mon mari. Bonzemba Dominique, le 1er août 2010, 3 jours après la remise et reprise du ministère.
Trois jours après?
Oui.
Quand vous avez quitté le ministère?
Oui.
3 jours après, il est décédé, votre mari?
Il est décédé pendant que moi j'étais à Kinshasa avec l'enfant qui était très malade à l'hôpital.
Il était souffrant?
L'enfant était souffrant,
non,
moi je n'étais pas souffrant. Je l'ai laissé, il m'a prodigué des conseils avec l'enfant. Il dit, ne te décourage pas, prends tes dossiers, va un peu voir, contacter les autres pour que tu sois positionné quelque part. Il prodiguait même des conseils à notre fille et après, ils sont partis. 3 jours après, il est décédé. Ça, c'est le mauvais souvenir.
C'est le mauvais souvenir, c'est vrai, c'est un mauvais souvenir.
Le deuxième, c'est l'entrée des Aignelais dans la ville de Mbandaka en avril 2010.
Vous avez été victime?
J'étais ministre provincial de l'Intérieur. J'étais interpellée au niveau de
l'Assemblée provinciale. Pour vous expliquer.
Oui.
C'était pas facile, hein?
Non, c'était pas facile. Je devais encaisser tout.
Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a fait partir finalement?
Non, non, pas ça.
Alors, madame Monique, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot, un dernier message à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment, particulièrement les équatoriennes et équatoriens, qu'est-ce que vous leur dites?
Comme je venais de le dire, les mots pour le dire me manquent. En tant que femme, dans les instances décisionnelles, je souhaite que soient prises en compte des questions de la femme qui, de nos jours, dans le contexte de la crise multiforme qui secoue le pays, et les femmes jouent un grand rôle pour la survie des ménages. Ceci implique une prise de conscience et de responsabilité de la femme par sa participation effective au processus de développement. La femme subit une marginalisation de par les facteurs socio-culturels et de tous les conflits. Elle est la première victime des effets néfastes de la guerre. Il faudrait que des efforts soient déployés dans ce sens-là. L'arsenal juridique est là, mais il reste un problème de matérialisation de tout ça. Mon souhait le plus ardent est qu'il y ait la paix, en tant qu'ambassadrice de la paix, qu'il y ait la paix dans le pays, dans notre province, et que l'Assemblée de l'Équateur fonctionne comme les autres assemblées. Que les antivaleurs, kakuluna, détournement des deniers publics, la corruption, soit remplacée par des valeurs afin que cette jeunesse ait des modèles et que la population puisse vivre ou connaître un développement durable.
Alors avant de conclure complètement cette émission, vous avez fait des publications, c'est dans le cadre de vos recherches.
Oui, c'est vraiment important. J'ai fait des publications dans le cadre de mes recherches et surtout... sur la marginalisation de la femme Bongando.
Là, je vois par exemple, parmi vos publications, dans La République, Les Braves du Roi.
Ce sont des journaux,
des journaux.
Oui, qui apparaissent au niveau national. J'ai publié J'ai écrit, comme vous venez de le dire, j'ai écrit là-dessus.
Sur la femme.
Sur la femme Bongando. Parce que très souvent, vous suivez Bongando, tout ça. Il y en a qui ne savent même pas que Bongando, c'est une tribu. Moi, je suis Bongando de père et de mère. Et ce sont des tribus qu'on trouve dans les territoires de Djolou, Yaouma, à Kisangani, à Befale, Bokungu et Ikela. Les Bongando sont, ce sont des très belles femmes. Alors,
comme vous,
merci beaucoup. De très belles femmes, ils ont évolué au niveau de Kisangani avec les colons, les premiers Européens là, ont eu comme épouse des femmes Bongando. Ce sont des femmes là, des très belles femmes qui sont arrivées au niveau national après la guerre, la rébellion de 64 et ont déstabilisé plusieurs foyers. C'est ce qui est arrivé avec maman Marceline Bokonde, une femme de Djolou qui vivait en Mario avec papa, un papa tété à qui j'étais le nom. Et ils ont eu une bataille. La maman lui a cassé le bras et pour se venger, son mari est allé contacter son ami musicien Vicky Longomba pour exhiber, qui exhibera par la suite des chansons là, de discriminant maintenant toute une tribu, ouais. Bongando, Vimabe, tout ça, à cause d'une querelle. Et les gens ne connaissent pas que Bongando, c'est une tribu, c'est devenu synonyme de prostituée. Bongando, ce n'est pas prostituée. Et les femmes Bongando doivent se sentir fières. Parce que moi, je suis Bongando, je suis devenue ministre, je suis devenue maire de la ville. Qu'elles ne se sentent pas complexées à cause de ce qui s'est passé. Ce sont des enquêtes. J'ai mené 20 ans d'enquête pour avoir les résultats que je suis en train d'exposer aujourd'hui au niveau de la radio Capitale.
Vous avez publié aussi un autre article, les causes des ruptures conjugales dans la ville de Mbandaka.
Oui, ça c'est dans le cadre de... Idéa. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des foyers.
Alors, quelles sont les grandes causes des ruptures?
Les infidélités.
On retrouve ça partout dans...
Oui, mais il faudrait maintenant, il fallait que j'amène le... En tout cas, il y a beaucoup de problèmes d'infidélité, les problèmes de pauvreté sont à la base de ça. Et les coutumes aussi. Les coutumes discriminatoires. Deux coutumes différentes. Les chocs des coutumes. Okay. Quand les gens vont vivre. Par exemple, un pygmée avec un kundo. Comment ils vont se marier?
Monique Julienne Ngolelo-Konga, nous sommes vraiment, vraiment à la fin de cet entretien. C'était un plaisir pour nous d'échanger avec vous, avec la première femme qui a occupé la fonction de ministre de l'Intérieur, de l'Ordre public, justice et droits humains. C'est pas donné à tout le monde. Alors, on vous souhaite bonne chance pour les provinciales qui vont arriver bientôt.
C'est moi qui suis honorée. Je remercie du fond du cœur la radio Okapi, notre radio, qui nous a toujours soutenus à la mairie, au ministère et aujourd'hui à l'émission Grand Témoin. Merci, merci beaucoup à la radio Okapi.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Monique Julienne Ngolelo-Konga. Elle est ancienne ministre provinciale de l'Intérieur, Ordre public, Justice et Droits humains dans la province de l'Équateur. Merci à toute l'équipe de Mbandaka qui nous a aidé à préparer et réaliser cette émission. La technique était assurée par André Mongou au micro, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bon suite de programme sur la fréquence de la paix.